Et tout de suite du grain à moudre, Hervé Gardette.
Merci Tara Schegel, à bientôt.
À demain.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre, notre dernier rendez-vous de la semaine, une émission préparée par Céline Richer, Fanny Leclerc, Mélanie Gessel et Kiran Chalandon, réalisée par Jean-Christophe Francis, à la prise de son Alexandre Dang. Des peines de prison ferme requises à l'encontre de l'ancien maire de La Faulte-sur-Mer et de son adjointe à l'urbanisme. Après 4 semaines de débat devant le tribunal correctionnel des Sables-d'Olonne en Vendée, le procès Xynthia est sur le point de s'achever. Demain, ce seront les dernières plaidoiries pour un jugement attendu le 12 décembre. Au cœur de ce procès, la question de l'urbanisation à outrance, de ces lotissements bâtis sur des zones dont on avait fini par oublier qu'elles étaient à risque, malgré les digues. Le 28 février 2010, la tempête avait raison de ces remparts bien trop fragiles et coûté la vie à 29 personnes. Alors il y a toujours des leçons à tirer de tels drames. Comment ne pas répéter les mêmes erreurs dans un environnement qui menace d'être de plus en plus hostile, pas seulement en Vendée, mais sur l'ensemble des littoraux de la planète. Selon le rapport du GIEC de 2013, le phénomène de montée des eaux lié au réchauffement climatique n'est pas près de se tarir. Son scénario le plus pessimiste évoque une élévation du niveau marin de près d'un mètre d'ici la fin du siècle. Alors même dans le moins pire des cas, il faudra faire avec un changement de géographie, de nouvelles terres immergées et donc des stratégies d'occupation du sol qui devront en tenir compte. Faudra-t-il vivre loin de l'eau, au-dessus et pourquoi pas en dessous ? Réchauffement climatique, saurons-nous apprivoiser la montée des eaux ? C'est notre sujet du jour. Et ce soir, 4 invités pour en discuter. C'est beaucoup, mais je suis sûr qu'ils seront beaucoup plus disciplinés que les 2 d'hier. Voilà, ceux qui ont écouté l'émission sauront à quoi je fais référence. Bonsoir Hervé Le Trot.
Bonsoir.
Vous êtes climatologue, vous dirigez l'Institut Pierre-Simon en Laplace. Vous êtes membre du GIEC, le groupe d'experts international sur l'évolution du climat. Pour discuter avec vous, Alexandre Magnan, bonsoir.
Bonsoir.
Géographe, chercheur à l'IDRI, l'Institut du Développement Durable et des Relations Internationales. Vous travaillez sur les questions d'adaptation des sociétés au changement climatique. Vous avez publié en 2012 aux éditions du Pommier avec Virginie Duvat ces îles qui pourraient disparaître. Notre troisième invité est architecte Grégoire Sorel. Bonsoir. Vous êtes le cofondateur en 2006 de l'association Bellastock, une association d'architectes donc, qui organise des événements autour de projets expérimentaux et écologiques. Cette année, il y avait le festival Waterworld. Autour des problématiques liées à l'eau, il y a eu une édition en France, c'était au mois de juin, je crois, et beaucoup plus récemment en Chine, au mois de septembre, donc le mois dernier. Et puis notre quatrième invité se trouve à Vannes, elle est donc au téléphone, il s'agit de Monique Cassé, bonsoir.
Bonsoir, avec Gardette.
Vous dirigez le parc naturel régional du golfe du Morbihan. C'est tout nouveau pour vous, mais ça fait un petit moment que vous travaillez sur les questions que nous évoquons ce soir, puisque vous avez participé au projet européen IMCOR. C'est un projet qui vise à étudier la prise en compte des changements climatiques dans les politiques publiques de gestion du littoral. Il y a plusieurs projets qui sont menés en Europe, dont un dans le Morbihan. Et ce projet a permis ensuite d'élaborer un certain nombre de scénarios à travers un outil, l'outil Cactus. Vous aurez évidemment l'occasion, Monique Cassé, de nous expliquer de quoi il s'agit. Alors Hervé Le Trot, je voudrais commencer par vous, parce que dans la façon dont on pose la question ce soir, on a lié directement le réchauffement climatique à la montée des eaux. Alors, ma question n'est pas tellement de savoir si, oui, il faut faire le lien entre ces deux phénomènes, mais je voudrais savoir, moi, si la montée des eaux s'explique exclusivement aujourd'hui par le réchauffement climatique, ou bien est-ce que s'il y a des phénomènes plus, disons, naturels, c'est-à-dire la Terre qui respire, qui change peut-être de forme et qui pourrait aussi expliquer le phénomène de montée des eaux ?
Non, pour l'essentiel, on a un relèvement du niveau de la mer. Alors, le niveau de la mer, au fil de l'histoire de la planète, a changé de manière considérable. On était, pendant le dernier maximum glaciaire, avec un niveau de la mer 150 mètres plus bas qu'aujourd'hui. Donc, il y a eu des changements qui étaient beaucoup plus importants que ceux dont on va parler maintenant. Ce qu'on peut dire, c'est que depuis maintenant plusieurs décennies, on a un rythme de relèvement du niveau de la mer qui est de 3,5 mm par an à peu près.
Alors quand on dit ça comme ça, du 3 mm, c'est rien voilà. Du tout. Alors, il va falloir attendre des siècles et des siècles avant d'en voir les effets.
Alors, ça fait 35 cm par siècle. Et on sait que ça a toutes les chances de s'accélérer. On était à 1 mm par an au début du XXe siècle, donc on sait que ça a toutes les chances de s'accélérer. Vous disiez tout à l'heure 1 mètre. En fait, c'est vrai que le rapport du GIEC donne une fourchette qui est de 50 cm à 1 mètre, donc d'évolution plausible. Alors, c'est des évolutions qui sont aussi inquiétantes parce qu'elles sont difficiles à arrêter. On met dans l'atmosphère des gaz à effet de serre. Ces gaz à effet de serre réchauffent. Le réchauffement produit des effets qui sont d'abord différés parce que les gaz restent très longtemps. Le CO2 qu'on met dans l'atmosphère reste entre un demi-siècle et un siècle. Les effets sont des effets qui sont de fonte des grands glaciers, de dilatation des océans. Tout ça ne va pas revenir en arrière facilement. Ça prend un peu de temps à se mettre en route, mais ça ne revient pas en arrière facilement. Donc on est face à une évolution qui est, pour laquelle il n'y a pas facilement de marche arrière.
Ah, vous évoquez la dilatation des océans. J'ai appris en préparant l'émission que l'eau, quand elle se réchauffe, on va dire elle est plus volumineuse, si on peut résumer ça comme ça. Hein,
voilà, c'est ça.
Que quand elle est plus froide.
On pense souvent à la banquise arctique. Alors celle-là, elle flotte, donc quand elle fond, elle ne change pas le niveau de la mer. C'est un peu comme le glaçon dans un verre de whisky. Par contre, les grands glaciers qui sont posés sur les continents, les glaciers de montagne, ou le Groenland, l'Antarctique, quand ils fondent, ils donnent leur eau à l'océan. Et puis, on a effectivement cette dilatation de l'océan qui prend plus de place, qui déborde en quelque sorte légèrement sur les côtes.
Alexandre Magnan, même si les effets de la montée des eaux peuvent varier en fonction des zones géographiques, on peut dire aujourd'hui que c'est vraiment une problématique mondiale.
Oh bah oui, clairement. D'autant plus qu'il y a une grande majorité de la population, en tout cas beaucoup des humains de la planète, qui habitent sur les zones littorales. Et les zones littorales, évidemment, elles sont directement concernées par cette montée du niveau de la mer.
Dans les constats qu'on a pu faire par le passé, dans un passé peut-être récent, est-ce qu'on a la certitude, par exemple, que certaines zones ont disparu aujourd'hui du fait de la montée des eaux ?
Ah, c'est un grand thème, ça. Que des zones, que des îles, notamment sous les tropiques, aient disparu au cours de l'histoire géologique, ça c'est sûr. Il y en a aussi qui sont apparues. Quant à avoir un effet direct entre montée du niveau de la mer et disparition aujourd'hui constatée, à ma connaissance, la science reste prudente.
Bon, en tout cas, la certitude qu'on peut avoir, c'est qu'il y a bien un phénomène de montée des eaux, que c'est compliqué de lutter contre ça, c'est-à-dire j'imagine que c'est compliqué d'imaginer d'élaborer des outils qui feraient que les eaux se replieraient à l'avenir, j'imagine, Hervé.
Une fois que le système est engagé, on n'a pas beaucoup de solutions, il y a des digues, ou se retirer dans des zones qui sont un peu plus loin des côtes.
Voilà, mais on ne peut pas attendre que ce soit la mer qui, elle, se retire en trouvant des solutions. Donc il faut imaginer des stratégies d'adaptation. Monique Cassé, donc, je rappelle, vous êtes dans le Morbihan, avec un département et une zone, le parc naturel régional du Golfe du Morbihan, qui a travaillé sur ces questions-là d'adaptation au changement climatique. La prise de conscience, elle s'est faite comment ? Est-ce qu'il y a eu un événement, disons, fondateur ?
La prise de conscience, elle s'est faite très lentement, parce que le travail sur la question du changement climatique, nous avons commencé à l'aborder dans l'élaboration du projet de parc dans les années 2006-2007. Je dois vous avouer que c'était quand même loin d'être une priorité et des acteurs locaux et des décideurs politiques. Et puis, effectivement, il y a des événements qui ont été aussi déclencheurs. Alors, dans les événements déclencheurs, il y a eu deux tempêtes, même si elles ne sont pas directement corrélées avec les questions de changement climatique. La tempête Johanna en 2009 et puis la tempête Xynthia, pour lesquelles il y a eu des dégâts pas aussi importants que ce qu'il y a pu avoir en Vendée, mais il y a eu des dégâts sur le territoire, des zones submergées, des sentiers côtiers qui ont disparu, des ostréiculteurs inondés. Donc ça, c'est aussi des moments d'avancée, mais d'avancée par crise.
Où on se rend compte de la vulnérabilité ?
On se rend compte de la vulnérabilité parce qu'on a tendance à oublier assez facilement ce type d'événement. Et puis, nous, notre travail, il s'est inséré avant ces événements. Donc, le processus a été un peu lent pour qu'il y ait une réelle prise de conscience des enjeux. Et puis, au moment où notre travail a commencé, c'était une période aussi où où le déni des climato-sceptiques était énormément mis en avant dans les médias. Et donc ça aussi, c'est des moments qui donnent des doutes aux acteurs et qui font que le processus est encore ralenti, alors que les questions sont cruciales. Sur un littoral comme le nôtre, nous, on a un territoire qui a 540 km de côte, avec des dizaines d'îles habitées. Donc c'est une vraie question.
Alors sur cette question du diagnostic et de la prise de conscience, on va ensuite examiner les différents scénarios qui existent. Avec Grégoire Sorel, donc je rappelle que vous êtes architecte. Est-ce que cette prise de conscience, elle existe au sein de la communauté des architectes? Est-ce que c'est une réflexion qui est très vivace, disons, ou bien c'est quelque chose qui existe plutôt à la marge aujourd'hui?
Alors c'est une question qui existe. Qui n'est pas forcément prioritaire, mais qui est la question du rapport à l'eau et de l'architecture ou de la ville, a finalement, dans l'histoire, a toujours été important. Dans l'enseignement de l'architecture, il n'est pas forcément abordé, mais on a beaucoup d'exemples d'architecture qui prennent en compte cette problématique de l'eau, qu'elle ce soit la montée des eaux ou plus largement la gestion de l'eau dans un bâtiment ou le rapport qu'il peut y avoir entre avec la pluie, par exemple.
Dans l'enseignement de l'architecture, est-ce qu'on justement vous enseigne les techniques qui ont pu être celles des siècles passés? Je pense par exemple au polder, cette façon d'essayer de gagner sur l'eau, faire gagner la terre ferme sur l'eau. Est-ce que ça, c'est des choses qui sont enseignées dans les écoles d'architecture, ou bien il y a presque une forme d'oubli de ces expériences-là?
Non, il n'y a pas un oubli. Après, c'est abordé comme beaucoup d'autres sujets. L'idée, c'est que l'architecte soit capable de prendre en compte tous les phénomènes et prendre en compte toutes les contraintes, dont celle-là, mais ce n'est pas la seule. C'est pour ça aussi que nous, on a décidé d'aborder ce sujet un peu de manière frontale au travers de notre festival, qui amenait les étudiants qui participaient à ce projet à se confronter à cette question de manière très directe, à savoir comment ils pouvaient... Comment ils étaient capables de réaliser un abri qui sur l'eau, quoi.
Alors il y a justement une manière frontale, sans doute, d'envisager le phénomène de la montée des eaux, c'est d'ériger des défenses massives pour résister à l'agression de la mer. Là, je vous cite directement Alexandre Magnan. C'est-à-dire, c'est quoi le réflexe aujourd'hui encore, et disons peut-être le plus largement partagé, c'est de construire des digues ou des murs pour essayer d'empêcher l'eau d'arriver là où on habite.
Oui, et c'est exactement. C'est exactement ça. C'est en partie pour ça et en partie une stratégie qui permet par exemple à des élus locaux de montrer à la population qu'ils agissent quand il y a une tempête qui arrive, qu'il y a un pic érosif. La population s'inquiète, évidemment, se questionne, et c'est aussi un moyen pour les autorités de dire « Regardez, on fait quelque chose, ne vous inquiétez pas, vous êtes protégés. »
Si je peux intervenir, c'est pas toujours une solution, parce qu'on le voit par exemple aux Pays-Bas, où donc y a eu tout un travail qui a été fait pour justement empêcher l'eau de rentrer. Depuis quelques temps, finalement, ils se aperçoivent que c'est une véritable solution, mais que finalement, si la montée des eaux, ça veut dire qu'il va falloir continuer à surélever les digues, et qu'ils s'aperçoivent aussi que ça fait oublier aussi ce risque. On se sent protégé, du coup, on n'anticipe pas le problème. Et finalement, il y a aussi une démarche qui serait plus souple, enfin, d'avoir une attitude plus souple dans notre manière d'aménager l'environnement, et de prendre en compte cette question de l'eau dès la conception du projet, et d'essayer de s'adapter à ce côté dynamique de l'eau, quoi.
Monica, c'est élever des digues ou les renforcer, ça fait partie des scénarios qui sont à l'étude dans le golfe du Morbihan?
Parmi les trois scénarios exploratoires que nous avons conduits avec une centaine d'acteurs du territoire, il y a un des scénarios qui s'intitule la technologie à la rescousse, avec le scénario de construire des remparts contre la mer, des digues, de se protéger au maximum, de réélever les digues existantes. Ça fait partie d'un des scénarios. Voilà, mais il y en a d'autres. Et l'intérêt, c'est de balayer tous les futurs possibles, sachant que le scénario des remparts contre la mer, c'est le réflexe d'aujourd'hui, de mettre des digues, des épis, mais que ce scénario-là, il est générateur d'autres problèmes, parce que dans le compartiment hydrosédimentaire d'une côte, là où on bloque la mer, ça veut dire qu'à d'autres endroits, on accentue l'érosion et les phénomènes de pénétration de la mer sur d'autres territoires. Donc on reporte le problème chez les voisins ou tout près.
Hervé Le Trot, ce scénario de l'endiguement, c'est la croyance que la technologie et que l'homme, de toute manière, est forcément plus fort que la nature. Ça va un peu jusque-là.
Oui, il y a toujours eu cette attitude-là, très souvent, dans nos sociétés. Ce que je voulais dire, c'est qu'il y a quand même à différencier, peut-être dans la discussion, deux types d'atteintes liées au changement climatique, d'atteintes aux côtes et aux zones côtières liées au changement climatique. On parlait de la montée du niveau de la mer, qui est cet effet lié à la dilatation, à la fonte des grands glaciers. Et donc ça, c'est une conséquence assez directe du réchauffement de la planète. Et puis, il y a des conséquences qu'on peut plus appeler les conséquences liées au dérèglement, dérèglement de la météorologie, dérèglement des courants océaniques qui sont très souvent liés au... Donc chez nous, ce qui compte beaucoup, c'est la position de l'anticyclone des Açores. Donc où sera l'anticyclone des Açores? Quelles seront les tempêtes qu'on aura dans le futur? On a une capacité à prévoir ces choses-là qui est plus faible. On n'est pas tout à fait certain, par exemple, que Xynthia soit liée au... Même pas certain du tout que Xynthia soit liée au changement climatique. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a aussi un risque de dérèglement qu'on a plus de mal à anticiper, à préciser.
Donc, ça veut dire que comme il y a des incertitudes sur ce qui peut se passer, il faut avoir des réponses peut-être plus souples que du bâti extrêmement solide et difficile à modifier.
Il faut en tout cas être capable d'explorer une gamme de futurs plus large que celle qui est strictement devant nous. Voilà.
Alexandre Magnan.
Oui, je voulais intervenir. C'est très juste ce que vous dites. Il y a une combinaison d'effets et ça, il faut le prendre en compte. Après, il n'y a pas de solution miracle. Ça, il faut le savoir. Une digue, ça peut être bien un endroit. Si vous avez la ville de New York, c'est difficile de déplacer New York. Alors là, peut-être qu'une digue, un système de digue, c'est utile.
Alors, il y a un projet qui vient d'être lancé, le Big U notamment à New York, où on essaie justement de protéger Manhattan.
Et après, vous avez des endroits... Si vous voulez, l'option, elle est bonne à partir du moment où on se questionne sur les enjeux qu'on veut protéger et qui sont derrière. Si c'est un camping, mettre une digue, c'est peut-être une grave erreur, en fait. Et là, il y a d'autres options plus souples. On parle d'options plus souples qui sont, par exemple, de reculer ce camping un petit peu. Donc, il n'y a pas d'option miracle.
Alors, on peut imaginer qu'on élève des digues, mais on peut aussi imaginer, je ne sais pas si ça fait partie des scénarios qui sont à l'étude du côté des architectes Grégoire Sorel, de surélever les habitations. Est-ce que ça fait partie des pistes envisagées par rapport à la façon dont on va habiter à côté de l'eau ou au-dessus ?
Il y a plusieurs typologies d'habitats qui sont... adapté à l'eau. Il y a effectivement les habitats sur pilotis, mais si on part du principe que le niveau de l'eau va monter, il y a un moment, le pilotis sera complètement sous l'eau, et donc la question continuera de se poser. Il y a effectivement la poldérisation qui consisterait à créer des terres, à surélever le niveau des terres, ou en tout cas à créer des îles artificielles. Mais il y a aussi une autre solution qui est de proposer des habitations flottantes qui peuvent être aussi amphibies, c'est-à-dire qui peuvent être sur terre et pouvoir flotter en cas de montée des eaux. Il y a un exemple assez concret d'une agence d'architecture anglaise, Baca, qui a proposé récemment une maison amphibie, donc qui surélève. Mais il y a en tout cas à travers le monde des exemples de communautés qui vivent comme ça depuis très longtemps, qui vivent sur l'eau, et qui vivent toujours sur l'eau et qui ont développé leur activité économique et tout un mode de vie en lien avec ce milieu. Quoi.
Monique Cassé, vous imaginez dans le golfe du Morbihan vivre par exemple dans un lotissement amphibie?
Bah écoutez, ça fait partie des futurs possibles. Après, ce sont peut-être quand même des visions qui sont à la limite de la science-fiction, mais non, pas franchement. Comme l'a dit Alexandre Magnan, il y a toute une gamme de réponses qui doivent être nuancées, qui vont être phasées dans le temps, parce que de toute façon, le niveau de la mer, il va pas monter d'un coup. On a beaucoup d'incertitudes sur combien sera l'élévation et à quel rythme ça va s'élever. Ça va être différent suivant les points de la planète. Donc, il y a des solutions douces, des solutions alternatives. Tout dépend si on se trouve derrière des habitats naturels, une population agglomérée, de l'habitat diffus. Donc, les différentes solutions peuvent être prises dans les différents types de scénarios, des plus technologiques à ceux qui favorisent le repli des populations et des activités plus en arrière. D'imaginer que les activités qui ont besoin de la proximité immédiate de l'eau, soit dans des modes architecturaux qui puissent être réversibles, qui puissent se démonter facilement en fonction des aléas. On peut imaginer, les solutions seront, il n'y a pas une solution, il y a des enjeux, mesurer bien la vulnérabilité des différents espaces. Et puis en fonction de cette vulnérabilité et du type d'activité, de population ou d'espace naturel qu'on y trouve derrière, eh bien il y a des solutions techniques ou de repli qui vont être différentes.
Mais alors pour choisir les solutions, par exemple dans le cas du golfe du Morbihan, Monique Cassé, quels sont les critères qui sont mis en avant pour choisir la meilleure solution? Est-ce que ce n'est pas d'abord la contrainte budgétaire, puisque aujourd'hui tout dépend de ça?
C'est-à-dire la solution la moins chère. De toute façon, les solutions technologiques sont très chères. Alors, la solution la moins chère sur un habitat naturel, ça va être de dire on laisse pénétrer la mer, ça crée une zone tampon qui permettra de protéger des espaces voisins qui sont habités. Ça peut être des solutions moins coûteuses. Ceci dit, il y a quand même tout un travail d'acquisition foncière par la puissance publique pour arriver à ce type de solution. Sur de l'habitat diffus, il faudra vraiment se poser la question, et non seulement de l'habitat, mais des accès, parce qu'on parle, là, on parle de la population, mais il y a les moyens d'accéder au lieu d'habitation, au lieu de travail. Donc la question des réseaux routiers, de tous les autres réseaux sont aussi à se poser. Donc la première chose, c'est de travailler déjà, d'analyser très finement les enjeux de la vulnérabilité du territoire. Mais la difficulté, c'est qu'on est dans des phénomènes d'incertitude. Incertitude par rapport au changement climatique et incertitude sur les effets attendus de ce changement climatique, en particulier sur la question de la montée du niveau de la mer et de l'intensification ou pas des phénomènes, des aléas, des phénomènes de tempête.
Alexandre Magnan, Hervé Letrotte, laisser par exemple la mer faire son œuvre finalement, est-ce que ça fait partie des scénarios qui aujourd'hui sont privilégiés parce que justement ce sont les plus simples à mettre en œuvre?
D'un point de vue théorique, c'est les plus simples à mettre en œuvre. Maintenant, ça demande des changements de comportement et des agents immobiliers et des assurances et des populations. C'est un vrai coup politique pour les élus. Donc à partir de là, elles ne sont pas si faciles à mettre en œuvre dès maintenant.
Pourquoi c'est un coup politique ?
Ah ben parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, une tempête arrive, elle crée un pic d'érosion. La population a plutôt envie de voir une digue se poser parce qu'elle se dit « voilà, maintenant on est protégé », avec effectivement ce que vous disiez tout à l'heure, un effet très pervers qui fait qu'on se sent protégé derrière la digue, alors qu'en fait on ne l'est pas du tout. Dire « attendez, il y a une grosse tempête, un événement extrême, on va repenser notre modèle d'aménagement du territoire » et on va tous reculer un petit peu. Ça, c'est plus difficile parce qu'il va falloir exproprier, etc. etc.
Hervé Letrotte.
Oui, je pense qu'on parle quelquefois d'urgence climatique. Alors, il y a effectivement une urgence parce que les gaz à effet de serre qu'on met dans l'atmosphère restent très longtemps. Il faut éviter de les mettre maintenant. L'effet de ces gaz est un petit peu différé quand même, comme je l'ai dit. Donc, il y a un peu de temps pour la démocratie, pour réfléchir à ce qu'on va faire, pour la manière dont on... Donc, je pense qu'effectivement, vous parliez de coûts. Ces coûts sont quand même à considérer sur une certaine période de temps. C'est cette période où on va, peut-être 10, 20, 30 ans, où on a le temps peut-être de réfléchir au type d'infrastructure. Alors moi, on s'est occupé d'un rapport sur l'Aquitaine, par exemple, ou avec des régions où, finalement, face à des érosions qui sont... dont on ne sait pas encore si elles sont naturelles, si elles vont être modifiées par des régimes de tempête différents, les dunes constituent une très bonne défense. Donc se reculer derrière les dunes, il y a des villes qui commencent à l'envisager. On avait content de mettre les pieds dans l'eau, mais si c'est vraiment dangereux et qu'on a 20-30 ans devant soi, on peut faire reculer la ville, se remettre derrière. Donc je pense que ça dépend beaucoup des situations, des types de contextes, mais il y a à mon avis vraiment besoin de débats qui impliquent les populations. Il y a un petit peu de temps pour faire ces débats-là. Oui.
Alexandre Magnan.
Oui, tout à fait, je rebondis là-dessus. C'est vrai qu'on a beaucoup d'incertitudes sur les impacts locaux du changement climatique et de l'élévation du niveau de la mer. Cela dit, on a aussi énormément de certitudes quand on regarde la question du point de vue des risques. Et ces certitudes, c'est par exemple les erreurs d'aménagement, des aménagements de maisons de plein pied en zone inondable. Si déjà on évite ce genre de choses, en fait, on s'adapte. Donc il y a des incertitudes, mais il y a quand même une forêt de certitudes derrière.
Hervé Le Treut, quand vous dites « on a le temps », c'est qui ?« On », c'est nous en France, on a un peu de temps ? Ou bien est-ce que c'est on a le temps globalement ? Parce que c'est vrai qu'on est, on a tous en tête ces urgences avec cette notion de réfugiés climatiques dans les îles du Pacifique où ce serait une question.
Ce que je veux dire, c'est qu'on est face à une urgence, mais ce que je voudrais dire, et je ne veux pas être mal compris, cette urgence n'empêche pas de concevoir des choses de manière réfléchie et de manière prospective. Voilà, donc on est face à des choses qui, de toute façon, même s'il y a déjà des effets, ils vont croître. Donc on a un peu de temps pour prendre des mesures. Et d'autre part, par rapport aux incertitudes dont on parlait, on peut les appeler des risques. On est face à des risques qu'on sait assez bien définir et qui vont croître. Donc on a un peu de temps pour définir on a un peu de temps. Je pense qu'il faut pas perdre le temps d'une concertation entre des élus, entre des scientifiques, parce que s'il n'y a pas ce temps-là, de toute façon, on ne va pas faire grand-chose. Et donc, on est obligé de le prendre, ce temps-là, et d'une certaine manière, il ne sera pas perdu.
Il y a le temps de la concertation, il y a aussi le temps de l'expérimentation, Grégoire Sorel. Alors, je voudrais que vous nous disiez un mot de ce festival Waterworld, qui a eu lieu donc, en Chine au mois de septembre, avec des étudiants français et chinois en architecture, qui ont essayé de mettre en place. Bah, racontez-nous ce qu'ils ont essayé de mettre en place. Alors, parce qu'ils y sont arrivés, d'ailleurs.
Donc dans les deux cas, que ce soit en France ou en Chine, l'objectif était de concevoir et d'habiter une structure flottante. Donc en France, on était vraiment sur l'idée de produire un habitat amphibie, dans le sens où la nuit, il était sur terre, mais il devait être capable de se déplacer et d'aller sur l'eau le jour. Pour des raisons de sécurité, on ne voulait pas que les participants dorment sur l'eau. Mais du coup, ça posait toute cette question du poids de l'architecture d'essayer de produire une architecture qui est justement, comme je disais, un peu plus souple, peut-être plus capable de s'adapter à son environnement. Et ça, on a des exemples. Par exemple, on sait qu'à Venise, le fait d'habiter sur l'eau ou sur pilotis, en tout cas, a nécessité de penser et d'utiliser des matériaux plus légers et puis de penser une architecture plus légère. Et en Chine, l'objectif était un peu différent parce que là, on était plutôt sur la proposition de programme flottant, mais toujours dans cette idée de construire, de concevoir, de construire et de tester son projet.
Avec quel type de matériaux ?
Alors en France, on était sur des palettes, des tasseaux, des chevrons et des cubis prêtés par une entreprise avec qui on a monté un partenariat pour flotter, qui sont aussi des systèmes de flotteurs qui sont souvent utilisés pour les pontons. Et là, on était aussi dans une idée, vu que le projet est éphémère, de bien penser au cycle de la matière et donc dans des matériaux qu'on pouvait restituer après à l'industrie.
Et puis j'ai vu qu'en Chine, c'était des bambous et des bonbonnes d'eau,
voilà,
c'est ça ?
Voilà, en Chine, c'était des bambous parce qu'on était à Wuhan, dans la province du Hubei, où il y a pas très loin des exploitations de bambous. Donc on a essayé de travailler avec des matériaux locaux et des bonbonnes d'eau. Alors c'était intéressant en Chine parce que on s'est aperçu qu'il y avait aussi une crainte de la part des étudiants chinois, une crainte de l'eau, et donc ils se sont tout de suite focalisés sur comment arriver à flotter, donc c'était leur préoccupation, mais bon, ils se sont aperçus que ça a marché. Et donc l'idée derrière tout ça, c'est d'amener on développe pas de solution, on prétend pas développer de solution directement par ça, mais en tout cas on cherche à amener ces questions-là et à les vivre très concrètement. Quoi.
je trouve ça vraiment intéressant, Alexandre Magnan, cette façon d'aborder justement la construction par rapport à l'eau. C'est-à-dire, on voit bien qu'on est là très loin de ces fameuses défenses massives. On n'est pas là pour construire quelque chose qui soit le plus solide possible, quelque chose qui soit le plus flexible possible, finalement, le plus adapté à cet élément mouvant qu'est l'eau.
C'est d'autant plus intéressant que c'est des options, alors pas applicables partout, etc., etc., mais c'est des options qui, contrairement à la digue, essaient pas de faire sans la contrainte environnementale, mais c'est de faire avec. Et je crois qu'un des grands défis des sociétés de par le monde, des nôtres en l'occurrence, qui avons un peu perdu ce rapport à l'environnement, à la contrainte environnementale, c'est de réintroduire la dimension contrainte environnementale dans nos manières de penser, nos modes de développement. Et ça, effectivement, ces maisons flottantes, c'est un exemple concret.
On pourrait dire, par exemple, les anciens, eux, savaient comment vivre avec l'eau, et on a perdu une forme de savoir-faire parce qu'on a tellement misé sur la technologie qu'on a un peu oublié certains.
Oui, en partie. Alors, les anciens mouraient plus jeunes que nous. Enfin, ce n'était pas non plus un monde idéal. Ils avaient quand même cette contrainte environnementale à l'esprit, tout simplement. Enfin, je ne suis pas un ancien, donc je n'ai pas vécu cette période, mais j'imagine parce qu'ils n'avaient pas non plus les moyens technologiques qu'on a aujourd'hui. Donc, il y avait des choses bien avant, il y en avait des moins bien.
Monique Assé, est-ce que vous êtes allé chercher dans le passé des idées d'adaptabilité ou en tout cas de techniques qui permettraient au Golfe du Morbihan de s'adapter aux nouvelles contraintes ?
Non, pas franchement. On s'est plutôt penché sur des orientations d'avenir intégrant les enjeux environnementaux, les enjeux sociaux du territoire, plutôt que de se tourner vers le passé. Non, ce qui nous a préoccupés, c'est d'explorer les futurs possibles et parmi ces futurs possibles, voir quelles étaient les incidences politiques, économiques et sociales et environnementales sur le territoire.
Hervé Le Treut, sur la question de faire appel au passé, en préparant pareil l'émission, en réfléchissant, on s'est dit, tiens, mais les cités lacustres, par exemple, ça nous renvoie carrément au néolithique. Enfin, il y a peut-être aussi des choses à l'épuiser dedans, ou alors les habitats sur l'eau du lac Titicaca au Pérou, c'est peut-être des choses qui peuvent paraître extrêmement rudimentaires, mais en tout cas, dans le rudimentaire, il peut aussi y avoir des idées à prendre.
Oui, alors les hommes ont essayé de coloniser tout l'espace possible, et effectivement, sur le lac Titicaca, j'avais été il n'y a pas très longtemps. Il y a toujours ces sociétés qui vivent sur des îles en roseaux.
Alors, je ne sais pas si c'est plus fait pour les touristes aujourd'hui ou si c'est vraiment.
Je pense que c'est un mélange des deux. Ils sont contents d'utiliser le tourisme pour préserver leur culture. Mais non, je pense que, vu de mon point de vue de climatologue, le passé, c'est surtout une leçon par rapport à tous les événements qui sont rares, qui sont extrêmes et qui sont souvent les plus qui ont le plus d'impact sur. On n'a finalement pas un recul extrêmement long en termes de mesures météorologiques. Et donc les souvenirs, souvent ténus, les chroniques, enfin tout ce qu'on peut avoir comme information sur ce qui est pu se passer, les tempêtes centennales, il y en a une tous les 100 ans, mais peut-être tous les 200 ans. Donc, c'est des choses dont on se souvient ou on ne se souvient pas. Donc, elles ont laissé leur marque souvent dans la manière dont les gens ont habité certains territoires. Et c'est ça qu'il faut peut-être pas trop oublier. C'est-à-dire, il y a des zones dont on savait qu'elles sont inondables, dont on peut oublier qu'elles sont inondables. Je pense que cette mémoire des choses qui sont rares, qui peuvent se répéter, donc là on parle plutôt de fluctuations climatiques naturelles, mais on sait aussi que les changements climatiques peuvent modifier un peu ces fluctuations naturelles. Enfin, souvent, ce qui va être la marque du changement climatique, c'est de tordre un petit peu les systèmes récurrents qui sont naturels en les rendant peut-être plus fréquents, plus se produisant dans des endroits aussi différents. Voilà, donc toute cette approche de ce que peuvent être les événements rares, mais vraiment destructeurs, là, on peut utiliser le passé pour essayer de s'y confronter.
Est-ce qu'il y a, à l'échelle mondiale, Alexandre Magnan, une mise en commun de ces ressources-là qui permettraient justement de pouvoir avoir un catalogue de solutions à mettre en œuvre ?
Oh, des catalogues de solutions, il y en a plein. Hein. Il y a beaucoup d'approches qui se font maintenant à des échelles régionales, donc entre différents pays, d'échanges d'expériences, de discussions, parce que à l'échelle de régions comme les îles du Pacifique, par exemple, on retrouve d'un territoire à un autre quand même des problématiques qui se ressemblent beaucoup, avec des systèmes culturels, socio-économiques qui se ressemblent beaucoup. Et là, il y a des partages d'expériences possibles. On a la même chose sur la côte ouest africaine, par exemple. Donc il y a des initiatives, il y a des choses qui se mettent en place. Après, comme je vous le disais tout à l'heure, hein, la mise en application de tout ça dépend aussi beaucoup d'une volonté et de la société et de la classe politique de vraiment intégrer cette contrainte environnementale autant que les contraintes économiques, par exemple.
Alors, il y a la contrainte environnementale et puis il y a quand même toujours, de temps en temps, des projets qu'on voit apparaître qui ne sont pas la prise en compte de contraintes, mais plutôt l'idée d'être toujours dans la conquête de la terre sur la mer. Et je pense notamment à ces projets pharaoniques qu'il y a, par exemple, dans les Émirats arabes unis, où on construit des îles artificielles. Alors, il y en a une qui s'appelle The World, c'est-à-dire quand on est vu du ciel, on voit des îles qui représentent la carte du monde. J'aimerais savoir ce que vous en pensez tous de ce genre de projet. Est-ce que c'est quelque chose qui est totalement, comment dire, à contre-temps, Grégoire Sorel ?
Alors, c'est des projets pharaoniques qui demandent beaucoup de moyens et qui me semblent pas toujours prendre en compte le milieu dans lequel ils sont. On a l'impression qu'on prend pas le temps d'observer l'environnement dans lequel on est et on cherche à le transformer absolument pour le rendre habitable. Je sais pas si c'est des solutions adaptées, parce qu'à mon avis l'eau c'est quand même un élément puissant et qu'il est dur de lutter contre. Et donc je reste vraiment dans cette idée que c'est important de l'adapter et puis en plus de le prendre comme une contrainte et d'essayer de changer le paradigme et de l'intégrer dans la conception de l'aménagement, ça fabrique de nouvelles formes plutôt que d'essayer absolument de vouloir reproduire ce qu'on sait faire sur Terre, sur l'eau, en apportant un sol artificiel.
D'autant que du point de vue de l'empreinte écologique, ça ne doit pas être terrible, hein, y arriver le trotte.
Oui, ce sont des projets qui sont très singuliers, très rares et qui effectivement demandent des moyens et des à la fois la mise en œuvre aussi d'équipes d'architectes, d'ingénieurs, etc. Enfin, une concentration de moyens qui est assez rare finalement et qui tient à des circonstances financières un peu particulières. Je pense qu'effectivement, face aux changements qui viennent, être attentif au milieu dans lequel on est, c'est quand même probablement la meilleure manière de ne pas faire de bêtises, parce que moi je crois que le mot important, c'est celui de risque. On n'est pas capable de tout prévoir, et donc comme on n'est pas capable de tout prévoir, il faut rester un petit peu humble par rapport à ce milieu qui peut être très dangereux, le milieu marin, et donc pas présumer trop de ses forces par rapport à ça.
Alexandre Bagnan, ce sont des projets rares que ces îles artificielles, vraiment si rares que ça, ou bien est-ce que on commence là aussi à y réfléchir en se disant tiens, c'est peut-être une des solutions intéressantes à examiner?
C'est peut-être une des solutions intéressantes à examiner. Après, ça dépend beaucoup des contextes. Aux Maldives, par exemple, ils ont créé une île artificielle gigantesque à côté de leur île capitale qui s'appelle Malé, qui a une concentration de plus de 50 000 habitants par kilomètre carré, ça devient ingérable. Donc, ils ont été contraints de créer une île artificielle qui va, elle, accueillir entre le tiers et la moitié de la population d'ici 2050. Alors, si il n'y a que ça qui est fait, c'est peut-être pas une solution. Par contre, si il y a un regroupement de la population des atolls qui sont dispersés sur cette île artificielle, ça peut permettre au gouvernement peut-être de laisser le reste de l'archipel un peu plus soumis à ces dynamiques naturelles propres. Et à partir de là, vous voyez, les solutions, elles sont bonnes, elles sont mauvaises. C'est compliqué de répondre parce qu'il y a des jeux d'échelle aussi. Peut-être que faire des dégâts, je vais être provocateur, peut-être que faire des dégâts à un endroit pour laisser l'ensemble du territoire plus apte à répondre à des processus naturels, peut-être que c'est une option. Après, ça dépend comment c'est géré. Mais c'est très provocateur.
Ce qui est intéressant, effectivement, c'est de réfléchir en termes d'équilibre global et pas seulement
C'est une question d'équilibre, mais ce que disait Hervé Le Treut, quand même, est extrêmement important. Faire confiance aux dynamiques naturelles qui existent encore, c'est certainement la meilleure des approches aujourd'hui.
On est déjà au terme de l'émission. J'ai une question que je n'ai pas eu le temps encore de vous poser, Grégoire Sorel. On a parlé d'habiter loin de l'eau, à côté de l'eau, sur l'eau, sous l'eau. Il y a des projets?
Ah oui, alors il y a des projets, et notamment le projet de Jacques Rougerie qui enfin, c'est pas un des seuls, mais qui est
qui réfléchit, alors lui qui travaille de longue date hein, sur ces questions-là.
Ouais, architecte et océanographe, et qui est en train de développer un projet justement pour emmener des équipes scientifiques dans le, enfin, sous l'eau. Et c'est vrai qu'il a développé beaucoup de projets. Il a lui-même habité pendant plusieurs jours sous l'eau.
Bah peut-être qu'un jour, on fera une émission consacrée à ce sujet-là, mais à 200 ou 300 mètres en dessous du niveau de la mer, sous l'eau. Merci en tout cas d'avoir participé à tous les quatre à cette discussion. Alexandre Magnan, Monique Cassé, merci beaucoup d'avoir été en direct téléphone depuis Ivan, Hervé Le Trott et Grégoire Sorel. Si vous avez des réflexions à ajouter sur cette émission, des questions également à poser, n'hésitez pas. Notre site internet vous est ouvert, franceculture.fr, à la page du Grain à Moudre. Voilà, on se retrouve lundi à 18h20 pour une émission que nous consacrerons à la question du désarmement. Tout de suite, c'est le rendez-vous et c'est avec Laurent Goumard. Bonsoir Laurent.
Bonsoir et merci Hervé Gardet.